Évangile de Jean, chapitre 13. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes net, mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. »
Chers amis, les frères m'ont demandé de dire quelques mots en introduction, petite introduction, concernant ce texte que nous avons lu. Un texte solennel, un texte qui nous touche dans nos cœurs, comme nous avons dit d'ailleurs aussi dans une de nos prières, où le Seigneur maintenant se présente à ses disciples d'une façon tout à fait spéciale. L'évangile selon Jean, certainement, occupe une place spéciale parmi les quatre évangiles qui parlent du Seigneur. Nous le savons, nous avons souvent entendu par nos anciens frères aussi, le Seigneur nous est montré comme la parole éternelle. Il nous est présenté comme l'envoyé du Père, Fils de Dieu, envoyé du Père, pour être dans le monde, pour rendre témoignage de Dieu dans le monde. Peut-être nous avons certainement tous lu l'Évangile selon Jean déjà en entier, et nous avons peut-être remarqué qu'on peut peut-être faire quelques parties dans cet évangile. Une première, ce serait le début de l'évangile jusqu'au chapitre 12, où le Seigneur, dans différentes situations, se présente à des personnes individuelles. Il y en a plusieurs, nous le savons, en Jean 4, en Jean 3, Nicodème, en Jean 4, la femme de Sichar, de Samarie, en Jean 9, aussi cet homme qui était aveugle-né. Et le Seigneur a toujours montré quelque chose de sa bonté, de sa grandeur, de sa gloire. Il a montré toujours aussi qu'il était l'envoyé de Dieu, qui avait quelque chose à leur dire, à leur montrer. Et je crois, et nous croyons tous, que ces personnes avec lesquelles le Seigneur est mis en contact, et il a voulu être en contact avec ces personnes, que ces personnes étaient aussi touchées dans leur cœur. Nous aimerions bien être touchés dans nos cœurs aussi quand nous lisons, puisque nous avons lu maintenant ce paragraphe du chapitre 13. À partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, nous pourrions voir, nous voyons une autre partie où le Seigneur s'adresse directement à ses disciples. On a essayé aussi de faire une certaine comparaison, j'aimerais bien la juste dire. Nous connaissons tous le tabernacle qui était dans le désert. Nous savons que dans le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait d'abord le parvis, il y avait ensuite le sanctuaire, il y avait le très saint, le lieu très saint. On pourrait comparer aussi l'évangile selon Jean un peu avec cela. Dans à part peut-être le premier chapitre, mais après on voit, c'est comme le Seigneur se trouve dans le parvis. Dans le parvis, il y avait l'autel des reins. L'autel des reins parle de la croix du Seigneur Jésus et de ce que le Seigneur Jésus était dans le monde. Ce n'est pas encore le sanctuaire. Et c'est pour cela qu'on a pensé, on pourrait peut-être comparer cela avec les 12 premiers chapitres, où le Seigneur dans le monde montre ce que le Père lui a donné à faire voir. Et puis ensuite, on arrivait dans le sanctuaire, et dans le sanctuaire, c'est quelque chose de plus profond et de plus c'est quelque chose qui où il y a une liaison très intime de celui qui entre, relation très intime, et nous voyons cela dans ces chapitres 13 à 16 d'une façon toute spéciale, parce que là maintenant le Seigneur ne parle plus au monde, mais il parle à ses disciples, il parle à ceux qui croient en lui, qui sont convertis, qui lui appartiennent. D'ailleurs, une expression que nous trouvons ici, qui nous touche, il parle aux siens. Nous avons bien dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. C'était les siens. Le Seigneur avec les siens. Liaison intime, où il peut ouvrir son cœur, où il peut montrer ce qu'il a, c'est son amour envers eux, son amour qu'il avait et son amour qui resterait toujours. Il les aima jusqu'à la fin. Je n'ai pas mentionné le chapitre 17, vous l'avez certainement remarqué, mais on peut dire chapitre 17, c'est le Seigneur qui parle à son Père. Et on a l'impression que c'est en image, c'est le très saint, où le Seigneur est là avec son Père. Mais le sujet là aussi, et cela est touchant, c'est toujours aussi les siens. Il parle au Père au sujet de ceux que le Père lui avait donnés. Dans ces premiers versets, nous trouvons, il me semble, trois aspects. J'aimerais juste encore les mentionner. Dans ce verset, Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, nous avons, pour ainsi dire, pour ce que le Seigneur fait maintenant, c'est-à-dire le lavage des pieds, le Seigneur donne ici, ou la parole nous donne ici la cause. Pourquoi est-ce qu'il introduit maintenant, il leur lave les pieds? C'est la cause. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'en va. Il va quitter les siens. Et quand il quitte les siens, il passe au Père. Il va au Père. C'est ce qu'il avait d'ailleurs toujours dans son cœur, de retourner au ciel, de retourner à son Père. Mais, et cela est une chose qui est liée à cela, c'est le 12e point. Maintenant, quand il quitte la terre, il laisse les disciples sur la terre. Il ne sera plus avec eux. Il ne sera plus là pour les garder, pour les conduire directement comme c'était avant. Mais il leur dit, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de service encore. Et ce besoin, cette nécessité, c'était le fait que les disciples restaient dans la terre, restaient dans le monde plutôt, restaient dans le monde, dans un monde qui était mauvais, dans un monde qui était contre eux, comme le monde était contre le Seigneur. Ils seraient là, ils pourraient se sentir seuls peut-être, mais le Seigneur serait là. Et alors, c'est donc la nécessité de ce lavage des pieds. Pourquoi? Et nous voyons là une pensée qui nous touche profondément. Le Seigneur va rester avec eux dans une communion, qui est pratique. Et dans cette communion pratique, il faut qu'ils aient les pieds lavés. Ils seraient dans le monde, ils marcheraient dans le monde, ils pourraient se souiller en marchant par le monde, par tout ce mal moral qui est dans le monde, qui règne dans le monde, et eux dans le monde. Ils auront besoin d'être lavés. Ils auront besoin d'être d'être purifiés aussi. Donc nous avons vu la cause, le Seigneur s'en va. Nous voyons la nécessité qu'ils auront besoin d'être purifiés toujours de nouveau, et non pas une purification qui était unique une fois, ça c'est vrai aussi, nous allons le trouver quand nous lisons les paroles que Pierre a dites. Et puis nous avons un troisième point qui se trouve dans ces premiers versets, il les aima jusqu'à la fin. Voilà encore le motif. La cause, il s'en va. La nécessité, ils seront dans un monde mauvais, de mal moral. Ils auront besoin d'aide, ils auront besoin d'être purifiés toujours de nouveau. Troisième point, le motif. Le motif nous est montré, l'amour du Seigneur pour eux. Et son amour qu'il a pour eux a toujours le désir d'être près d'eux, d'être en communion avec eux. Et c'est pour cela que la communion que le Seigneur aimait avoir permanente avec eux, qui est le grand sujet que nous avons dans ces versets que nous avons lus. Il y a donc ce grand but, la communion avec Dieu, la communion avec le Seigneur, et c'est pour cela que le Seigneur leur montre comment cela sera réalisé. Ce qu'il fait, c'est un exemple premièrement de ce que le Seigneur fait encore maintenant. C'est une activité que le Seigneur a fait pratiquement dans la réalité, dans cette chambre haute où il était avec les disciples, mais c'est aussi une activité qui a une importance pour le ciel. Le Seigneur sera rentré, il sera dans le ciel, et il leur montre ici, voyez, j'ai encore un service pour vous. Je vous montre ce service. C'est mon service pour vous encore depuis le ciel. Service éternel, service céleste du Seigneur. Et ensuite, il leur donne encore deuxième point, cet exemple, que là aussi, il donne, il montre un service, je ne voudrais pas encore parler, mais montre le service que les uns pour les autres peuvent accomplir selon l'Esprit de Dieu pour que la communion soit gardée, gardée. Et, chers amis, cette communion, c'est quelque chose qui nous touche. Nous en parlons quelquefois de cette communion avec le Seigneur. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir communion avec le Seigneur? Premièrement, pureté morale, pureté en général. Et puis l'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs, que nous sentons l'amour du Seigneur. Plus nous sentons l'amour du Seigneur, comme c'est ici les disciples qui le remarquaient, plus aussi notre amour sera grand, grandira, croîtra. Et c'est pour cela que regarder le Seigneur dans son amour, aussi dans ce chapitre, c'est certainement une chose de toute importance. Nous souhaitons que le Seigneur nous accorde cela, de voir ce serviteur fidèle, ce serviteur plein d'amour. Le grand exemple aussi en cela, dans la deuxième partie de ce que nous avons lu. Que le Seigneur nous accorde de voir vraiment lui-même, sa personne, qu'elle sera plus grande pour nous.
Pour reprendre l'analogie que notre frère a soulignée entre le tabernacle avec ses trois parties et ce que nous avons ici, donc 12 premiers chapitres, le parvis, ensuite le lieu saint, mais peut-être encore souligner que devant le lieu saint, il y avait la cuve des reins où les sacrificateurs, image des croyants, étaient invités à se laver pour entrer dans le lieu saint. Nous avons quelque chose de cela ici. Notre frère aussi soulignait, pensée tellement importante, que le Seigneur va quitter les siens. Mais il y a peut-être aussi une pensée tout à fait immédiate, c'est que le Seigneur va enseigner les siens. Et nous n'entrons pas dans les pensées de Dieu, pensées du Seigneur dans n'importe quel état. Ce frère l'a dit tout à l'heure, il y a un état moral, il y a une sanctification qui est nécessaire pour entrer dans les pensées de Dieu. Et cela, combien c'est important pour nous aussi, disons pas, étant remplis des choses du monde, pouvons pas avoir grand-chose de la parole dans cet état. Il y a une préparation, le Seigneur nous enseigne par ce lavage des pieds pour entrer dans les choses de Dieu. Et cela, c'est très important pour chacun de nous. C'est donc là, on est juste avant, peut-être quelques, même pas quelques heures, avant le début de la Pâque. Si nous prenons les autres évangiles, nous sommes en effet, comme on l'a évoqué dans la prière, dans nos prières, nous sommes dans la chambre haute. Et pour situer les choses, même pour les enfants, nous sommes un jeudi soir. Les Juifs ne comptaient pas la journée comme nous. Nous calculons une journée depuis minuit jusqu'à minuit. Les Juifs ne comptaient pas comme cela. Ils comptaient une journée à partir de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du soir le lendemain. Et ça met en évidence quelque chose, une expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui est en général liée à la Pâque, peut-être toujours, mais je ne vais pas vérifier cela. Vous ferez la Pâque entre les deux soirs. Entre les deux soirs. C'est-à-dire à partir de 6 heures du soir. D'ailleurs, le Seigneur a mangé la Pâque, ce qui est pour nous le jeudi soir. La plupart des Juifs le faisaient, ce qui est pour nous le vendredi. Puisque on voit bien, et dans cet évangile, ça nous est dit, ils ne veulent pas rentrer au prétoire pour ne pas se souiller, quand le Seigneur est jugé, pour qu'ils puissent manger la Pâque. Les Juifs n'auraient pas voulu que la mort du Seigneur soit le jour de la Pâque, mais ce n'est pas eux qui gèrent. Et le Seigneur a permis, et Dieu a permis que le type et l'antitype aient lieu en même temps, le même jour pour les Juifs. Nous sommes à la septième Pâque, je ne veux pas dire qu'il n'y a que sept Pâques qui sont évoquées dans l'Écriture, on en a une au début de Jean, mais malgré tout, il y a sept Pâques significatives, et c'est la septième ici, qui est évoquée. Nous avons bien sûr d'abord Exode 12, la sortie d'Égypte. Nous avons une deuxième Pâque, sauf erreur de ma part, c'est dans le chapitre 9 des Nombres, on est dans le désert cette fois. Nous avons une troisième Pâque lorsqu'ils viennent de traverser le Jourdain, ils sont à Gilgal, dans le pays, pas détaillé parce que ça dépasse le cadre de cette journée, tout ce que ces Pâques dans ces différents lieux nous enseignent, extrêmement riche, mais on peut peut-être inviter les jeunes à étudier ces sept Pâques et le caractère de chacune de ces Pâques. Donc, Exode 12, nous avons Nombre 9 dans le désert, nous avons Josué 5 peut-être, ou tout de suite après Gilgal, donc c'est les trois premières Pâques. Ensuite, nous avons une Pâque du temps d'Ézéchias. Nous avons une Pâque du temps de Josias. Là, du temps d'Ézéchias, c'est fait pour tout Israël, alors que la dispersion du peuple, la séparation est déjà consommée complètement, mais la Pâque pour tout Israël, une piste extrêmement intéressante par rapport au témoignage aujourd'hui. Donc Ézéchias, Josias, et puis il y a cette Pâque aussi qui est faite en Esdras, lorsqu'ils sont rentrés, un très petit nombre. Et combien cette Pâque nous parle, n'est-ce pas, ce petit nombre, dans une grande faiblesse, dans un temps de ruine. Et puis nous avons donc la septième ici, qui a son antitype, c'est-à-dire sa pleine réalisation dans la crucifixion du Seigneur.
Nous savons, nous sommes ici au seuil de ce moment qui est au cœur même de la parole, la crucifixion et la résurrection de Jésus, ces moments qui sont annoncés dans le premier verset sur lequel j'aimerais rapidement revenir, parce qu'il y a plusieurs indices qui annoncent quelque chose justement de plus grand. On est donc avant la Pâque. Il y a cette heure qui vient, dont Jésus parle à plusieurs reprises, qui est imminente. Il y a cet amour qui va porter à amener Jésus jusqu'à la fin, dans quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais qui le sera. Jésus dit à Pierre aussi qu'il ne peut pas entrer pleinement dans le sens de ce lavage des pieds, mais que ça se fera par la suite. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui est annoncé. Alors cette heure qui vient, ce moment qui est annoncé, je l'ai dit, c'est bien sûr la crucifixion, la résurrection. Ça place ce moment comme quelque chose d'absolument essentiel, comme introduction de cette scène. Et sans faire appel à la crucifixion, à la résurrection, il n'est pas possible, je pense, d'entrer pleinement dans la signification de cette scène. C'est-à-dire, ça a été un peu dit dans l'introduction tout à l'heure, eh bien, d'abord, ça montre que Jésus est très attaché, si vous voulez, à cette scène, hein, avant même de passer par la crucifixion, la résurrection. Ensuite, ça montre aussi que c'est par ce moment de la crucifixion, la résurrection, que Jésus va créer ce cercle de relations avec les siens, comme il a été dit. Ce cercle dans lequel il va occuper cette place de maître, de seigneur, comme il est dit, cette position absolument centrale aussi, dans laquelle il va avoir cette relation, hein, très forte avec les siens. Voilà, les deux choses sont associées et sont rendues possibles, bien sûr, par la crucifixion et la résurrection. Ensuite, il y a un verset dans le Deutéronome, je cite de mémoire, qui dit « Les choses sont à l'Éternel et elles le seront », je retraduis juste l'esprit, « elles sont communiquées à ceux qui croient, qui vont pratiquer ». Il y a l'idée de cette révélation progressive, des choses qui sont cachées. Quelque chose ici que, dans ce premier verset, la parole nous rappelle très discrètement. Voilà les choses où elles vont, dans quelle direction elles vont. Ça échappe totalement aux disciples, ici, évidemment, qu'ils sont tellement dans le présent qu'ils ne comprennent pas trop ce qui est en jeu. Mais ce sont des indices qui sont laissés au lecteur que nous sommes et qui montrent que la parole avance et qu'elle va aller justement jusqu'au bout par amour et qu'elle n'oublie aucun des siens. Une révélation qui est progressive. Et puis ensuite, juste une deuxième remarque sur ce premier verset qui prend donc beaucoup de hauteur, qui nous montre qu'il y a ce plan de Dieu qui est pensé de très loin, de toute éternité, cette parole, cette pensée éternelle qui va s'accomplir. Et puis on voit tout de suite après Jésus qui se lève du souper, qui met de côté ses vêtements. Le Fils de Dieu, le Fils éternel, qui a conçu ce plan de salut et qui enlève ce vêtement. C'est-à-dire qu'on a la grandeur, si vous voulez, du plan de Dieu, la grandeur du Fils éternel, et qui entre très simplement dans la vie de ses disciples, dans cette situation très réelle, très simple. C'est déjà le thème de l'abaissement, ici, qui est annoncé. Mais quelle force aussi, justement, de voir que ce plan s'accomplit, qu'il suppose justement cet abaissement du grand Fils de Dieu.
Encore une pensée dans ce premier verset. Jésus, sachant que son heure était venue, on l'a dit tout à l'heure, son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Cette heure-là, c'est l'heure de la croix. À cette reprise dans l'évangile de Jean, on peut juste citer ces versets et nous est parlé de cette heure qui est venue, ou qui allait venir, ou qui n'était pas venue. Le premier verset se trouve en Jean 2. Jean 2, verset 4. C'est à la noce de Cana où Jésus était invité. Et il peut dire, à la fin du verset 4, « Mon heure n'est pas encore venue. » Le Seigneur avait toujours cette heure-là devant lui. L'heure venue, c'est l'heure de la croix. Le deuxième verset, on l'a en Jean au chapitre 7. Et au verset 30. Il cherchait donc à le prendre. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Tout était dans sa main. Ce n'est pas les hommes qui décident. Il y avait un plan divin et il y avait une heure qui devait venir. Elle était devant le Seigneur tout au long de sa vie. Ensuite, dans la page suivante, au chapitre 8 et au verset 20, au milieu du verset, « Et personne ne le prit, parce que son heure n'était pas encore venue. » Là encore, l'homme n'a aucun pouvoir sur ce moment-là. Suite au chapitre 12, « au verset 23. Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Si l'heure de la croix a en rapport avec ses résultats glorieux, ils ne sont jamais séparés de ses souffrances. » Et au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » D'un côté, le Seigneur avait, devant cette heure qui allait venir, son âme a été troublée. Quelle chose, n'est-ce pas, bien-aimé ? L'âme du Seigneur Jésus a été troublée. Devant cette heure de la croix. Alors, Père, délivre-moi. On le voit aussi à Gethsémané plus tard. Non pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Mais il avait cette pensée devant lui d'accomplir l'œuvre parfaitement. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Ensuite, au chapitre 13, on vient de le lire, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, l'heure de la croix. Et puis enfin, au chapitre 17, dans cette prière du Seigneur Jésus, qui clôt ces quatre chapitres où le Seigneur enseigne les siens, Seigneur qui a aimé les siens. Et il peut dire lui-même, en parlant à son Père, premier verset, Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » L'heure est venue, oui, l'heure de la croix, l'heure de cette œuvre parfaite. Il le dit au verset, à la fin du verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Seigneur Jésus se place déjà après la croix. Elle est devant lui, mais déjà, tout est. Il peut dire, proclamer, l'œuvre que tu m'as donnée, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors rien ne s'oppose plus à cette gloire, à cette glorification du Fils de Dieu, à cette gloire qu'il avait avant que le monde fût, cette gloire que nous contemplerons. Glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de cette gloire, de la gloire que j'avais auprès de toi. Seigneur avait fait éclater l'amour de Dieu dans le don de lui-même d'une manière incomparable. Le salut était acquis déjà, les péchés expiés, la puissance de Satan brisée, le voile déchiré, nous pouvons entrer parce que l'œuvre est parfaite. Que cette pensée de l'heure est venue, l'heure de la croix, cette heure est extraordinaire, unique dans les annales de l'éternité. Le Seigneur Jésus, là, dans ce chapitre 13, rappelle cela, sachant que son heure était venue, ayant aimé les siens. On a dit tout à l'heure, les siens, n'est-ce pas ? En Jean 10, il parle des miens. Les miens, ils écoutent la parole. Et ici, c'est les siens. Quelle parole sublime que celle-là. Nous sommes les siens, nous sommes à lui, il nous aime, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie et il nous aime encore en accomplissant ce service où il sert les siens en lavant leurs pieds.
Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je voudrais juste dire une expression. En Apocalypse 9, verset 15, hors du contexte de l'Apocalypse, il est parlé de quatre anges et il nous est dit qu'ils étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année. La chose nous est précisée là avec un tel détail et nous montre la précision des plans de Dieu. Le Seigneur est venu pour accomplir cette œuvre et il y avait cette heure. Et alors ce qui est frappant dans ce verset, ce premier verset du chapitre 13, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Si on veut renforcer un peu l'original, on pourrait dire, pour passer hors de ce monde, vers le Père. Il y a les deux prépositions qui renforcent, c'est le hors de ce monde et vers le Père. Et puis il y a, chose frappante, un silence sur ce qui est entre les deux, le contenu de cette heure. Et c'est quelque chose que l'on retrouve tout au long de l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, au chapitre 1er, quand le Seigneur est présenté, introduit, verset 10, il nous est dit « Il était dans le monde et le monde fut fait par lui et le monde ne l'a pas connu. » Et alors plus loin, il nous est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être enfant de Dieu, etc. » Et le comment, qu'est-ce qui rend cette suite possible, n'est pas mentionné. Juste après, la parole devint chair, verset 14, et habita au milieu de nous. Et le paragraphe se termine. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dans les autres évangiles, le Seigneur, à plusieurs reprises, insiste en leur annonçant ce qui va se passer. Le Fils de l'homme va être livré, les anciens vont l'abandonner, le peuple va le renier, il va être condamné, il va être mis à mort. Là, dans Jean, c'est comme si ce qui va se passer, c'est une affaire entre le Seigneur et Dieu le Père, et ce n'est pas mentionné. Sachant que son heure était venue pour passer de ce monde, qui sait ce monde, aller hors de ce monde, au Père, à quel prix? C'est les chapitres en conséquence qui nous en parleront, mais cette nécessité pour les siens, elle est comme occultée. Et on se demande pourquoi, mais je pense qu'on a un bout de réponse dans ce que le Seigneur dit plus loin, au verset 7, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Qui pouvait comprendre, qui d'entre eux pouvait comprendre ce qui allait se passer?
Un mot peut-être sur cette expression qui nous touche. L'heure était venue pour passer de ce monde au Père. Le Seigneur dit un peu plus loin dans ses entretiens, il dit à ses disciples, « Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais à mon Père. » Et donc le Seigneur avait cette joie devant lui, cette joie d'aller à son Père, de revenir vers le Père. Mais cette joie si grande, elle n'empêche pas que le Seigneur garde aussi son cœur, ses pensées, tournées vers les siens, tournées vers ses disciples. Le Seigneur était prêt à revenir vers le Père, quitter ce monde où il avait rencontré la contradiction des pécheurs contre lui-même, continuellement, à chaque pas. Revenir vers son Père, c'était une joie pour lui, mais cette joie qui remplissait son cœur, au-delà de cette œuvre, effectivement, qui était devant lui, cette joie ne l'empêche pas, ne met aucun obstacle à ce que son amour pour les siens
se poursuivent de la façon la plus profonde. Rien ne pouvait faire obstacle à cet amour du Seigneur pour les siens, pas même l'œuvre, la mort qui était là devant lui. Alors ensuite, nous avons une autre expression au verset 3, « Le Père lui avait mis toutes choses entre les mains ». Et c'est peut-être là aussi que nous discernons un aspect de l'œuvre que le Seigneur Jésus devait accomplir, de l'œuvre de la croix. Le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, c'est-à-dire que l'accomplissement de toutes les pensées de Dieu était entre les mains du Seigneur Jésus, entre les mains de son Fils bien-aimé. Tout ce qui devait être accompli pour la gloire de Dieu, tout ce qui devait être accompli pour que les pensées éternelles de Dieu soient réalisées, ne peut pas être dans les mains de l'homme. L'homme a failli tout le temps, chaque fois que quelque chose lui a été confié. Ça ne pouvait être que dans les mains du Seigneur Jésus. Et le Seigneur savait à quel prix, en quelque sorte, ce que le Père lui avait confié devait être accompli. Il lui avait mis toutes choses entre les mains, et bien le Seigneur Jésus a été, si on peut dire, celui qui a été infiniment fidèle à ce que le Père lui avait confié, jusqu'à la croix, et rapprochons cela encore, le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, à la croix, au chapitre 19, Jésus, sachant que toutes choses étaient accomplies. Voilà peut-être où nous trouvons particulièrement la croix. Et puis, il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. Et là, nous avons cette, si on peut dire peut-être, cette mission particulière du Seigneur qui était venu de Dieu pour nous faire connaître les pensées de Dieu, pour nous faire connaître Dieu, pour nous apporter la grâce et la vérité. Et il s'en allait à Dieu. Mais si le Seigneur était venu seul, comme le serviteur hébreu, il est venu seul. Mais quand il repartira, il a alors ceux qu'il aime et dont il va prendre soin.
Ça veut dire qu'il y a une certaine parallèle entre le verset 1 et 3. On a deux fois ce « sachant » qui nous donne cette raison ou l'occasion pour laquelle le Seigneur fait maintenant ce service. Nous avons vu ici le verset 1, « Sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, c'est la glorification du Seigneur, comme le Seigneur le dit plus tard, à la fin du verset 32, que le Père incontinent le glorifiera. » C'est cette glorification immédiate pour être avec le Père. C'est la première partie de cette cause, de cette raison, de cette occasion pour laquelle le Seigneur accomplit ce service. Le deuxième, le verset 3, comme nous avons entendu maintenant, il sache. Et le Seigneur savait que le Père a mis toutes choses entre ses mains, c'est certainement après l'œuvre de notre Seigneur qu'il est maintenant mis sur toutes choses, que le Seigneur a reçu du Père ce pouvoir et aussi ce privilège comme résultat, comme réponse du Père à son œuvre, vraiment de régner tout, d'être sur toute chose, d'accomplir le conseil de Dieu envers le monde, envers les siens. Et cette deuxième partie du verset 3 est un peu différente que le verset 1, qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. C'est plus Père, mais Dieu maintenant. Et ça nous montre dans le verset 1, c'est la relation du Seigneur avec le Père. C'est comme notre frère a exprimé, cette joie du Seigneur qu'après la croix, il a désiré être encore une fois encore avec le Père dans la gloire, mais dans le verset 3, c'est Dieu. Si Jean parle de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la sainteté. Et en effet, avant que le Seigneur, comme celui qui est mis sur toute chose, a pu donner cette bénédiction, cette grâce, il fallait que le Seigneur a dû accomplir, d'après la sainteté de Dieu, l'œuvre sur la croix. Parce qu'il y avait avant le péché entre l'homme et Dieu. Et le Seigneur a dû accomplir ce qui était d'après la nature de Dieu pour que Dieu soit capable, pour ainsi dire, de donner toutes ces bénédictions à ce monde. Alors, le Seigneur, c'était celui qui a accompli ses conseils aussi concernant la sainteté de Dieu. Pas seulement l'amour de Dieu, du Père, mais aussi la sainteté de Dieu qui a eu des nécessités, en fait, que le Seigneur a accomplies sur la croix. Et quand le Seigneur parle ici de cette heure, nous avons vu ces différentes expressions. J'aimerais motiver les jeunes, particulièrement les jeunes, de toujours regarder le contexte de chaque de ces expressions. Je crois qu'il est très important de comprendre qu'une expression dans la parole n'a pas toujours le même sens. Par exemple, si l'heure de, et particulièrement dans Jean, je crois que c'est très utile de le comprendre. Dans Jean 2, nous avons vu cette heure qui n'était pas venue quand le Seigneur était dans cette noce. Je reviens seulement pour un court moment sur Jean 2. Le Seigneur dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue », ça veut dire l'heure pour la gloire de son royaume ici sur la terre. Cette heure n'était pas encore venue et c'était la raison pour laquelle le Seigneur, dans cette situation, n'était pas encore capable de ouvertement faire ses bénédictions. Ou si vous regardez chapitre 5, le Seigneur parle la deuxième fois sur l'heure, verset 25. En vérité, je vous dis que l'heure vient et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est l'heure de la grâce qui est aujourd'hui en fait, cette heure que le Seigneur, par son œuvre sur la croix, a pu annoncer commencer en fait. Et ici, dans le chapitre 13, l'heure de sa glorification. Quelle joie c'était pour le Seigneur qui était ici sur la terre, qui a accompli cette œuvre que le Père l'a donnée, que Dieu l'a donnée, d'avoir l'occasion après d'être dans la gloire, dans cette jouissance éternelle avec le Père qu'il a su avant, comme nous lisons dans le chapitre 17. Ça nous montre aussi, je crois, ces expressions, que le Seigneur, et je crois que c'est important de comprendre ces chapitres 13 à 16, que le Seigneur nous voit déjà après la croix. Lui, il se voit après la croix, et nous aussi, nous sommes les siens, nous sommes ceux ici déjà dans le chapitre 13, qui peuvent regarder en arrière sur une œuvre accomplie. Et pour ceux, le Seigneur accomplit ce service de lavage des pieds parce que nous sommes déjà baignés, parce que nous avons déjà cette nouvelle vie et comme le Seigneur a exprimé déjà avant dans ces chapitres que le Saint-Esprit est déjà venu. Certainement ici, ce n'était pas encore le cas. Mais pour comprendre ces expressions que le Seigneur nous montre ici dans ces chapitres, je crois qu'il est utile de voir, il se voit après la croix, il nous voit dans toutes ces bénédictions célestes qu'il nous donne, et quand même nous sommes dans ce monde, et nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur qu'il est vu ici, maintenant, auprès du Père, qui est vu dans le ciel. Lui est dans le ciel, nous sommes ici, dans le monde, sur la terre. Et nous avons besoin de son service. C'est vraiment une nécessité pour nous. Sans ce service du Seigneur, de nous laver les pieds, ce n'est pas seulement un danger, mais vraiment, c'est pour nous, ça sera la chute, en fait. Mais comme le Seigneur s'occupe de nous, de ce ciel, et il nous ne le laisse pas quand il est maintenant dans le ciel, mais son amour est, a un caractère, a une sorte qu'il continue maintenant jusqu'à la fin de nos vies ici sur la terre avec ce service pour nous garder cette communion comme nous avons vu avec lui ou ici dans le lavage de le rétablir quand nous avons quand nous avons péché ici sur la terre. Vraiment un service béni du Seigneur qu'il fait maintenant du ciel pour notre bien. Et si nous comprenons que c'est vraiment besoin pour nous, que nous avons cette nécessité que le Seigneur s'occupe de nous, ça nous montre encore la grandeur du Seigneur qu'il nous ne laisse pas. Il a accompli déjà l'œuvre. Mais comme nous sommes si faibles, comme nous péchons si souvent, le Seigneur continue avec cet amour pour nous aider dans ces circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons ici.
Donc on voit bien que dans ces premiers versets, qui sont si profonds, si riches, le Seigneur se place devant nous comme celui qui va au ciel auprès du Père et qui quitte ses disciples. Et donc dans ces versets, dans le paragraphe qu'on a lu, comme dans les chapitres qui suivent, le Seigneur va nous donner ce dont on a besoin alors que lui est dans le ciel et nous sommes dans le monde. Et on remarque aussi le contraste dans l'expression « pour passer de ce monde au Père ». Quel contraste ! Le monde, ce n'est pas seulement la terre, c'est le monde système qui a rejeté Dieu, qui rejette le Seigneur Jésus. Et lui, il passe de ce monde-là au Père. Et on sait que dans le Nouveau Testament, il y a ces contrastes entre le monde et le Père. Il y a aussi le contraste entre le diable et le Fils de Dieu, et entre la chair et l'esprit. Et donc, dans l'expression « pour passer de ce monde au Père », on voit tout ce contraste. Ce qu'il quitte est là où il va. Et donc, c'est vraiment le tableau qui est placé devant nous. Il monte, il sera, comme Manuel l'a dit, désormais il est au ciel, nous sommes sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait aujourd'hui pour nous depuis le ciel, pour nous qui sommes encore dans le monde? Dans le monde, donc, au milieu de tous ces dangers, de tous ces pièges, de toute cette corruption, de tout ce mal. Et on voit que, comme on l'a dit aussi, il y a cet amour du Seigneur pour les siens. Et il me semble que dans l'expression « il les aima jusqu'à la fin », jusqu'à la fin, c'est plus qu'une question de temps, c'est une question d'intensité. C'est éternel. Il n'y a pas de mesure au-delà. C'est l'amour du Seigneur pour les siens, il est jusqu'à la fin, il est dans le sens aussi qu'il est complet, qu'il est d'une intensité que rien ne peut dépasser. Et donc le Seigneur, depuis le ciel, animé de cet amour pour nous, pour les siens, va s'occuper de nous et veiller à ce que la communion avec nous puisse être maintenue ou restaurée si elle a été perdue. Et on voit aussi dans le verset 2, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on ne pourra pas parler de tout, on voit que, quel contraste encore une fois, il y a le monde et le Père, il est parlé de l'amour du Seigneur pour les siens, amour jusqu'à la fin, et tout de suite, verset 2, le diable ayant mis dans le cœur de Judas Iscariote de le livrer. Il y en a un qui aime jusqu'à la fin, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Il y en a un autre en contraste qui a une haine terrible et jusqu'au point d'aller mettre dans le cœur d'un de ses disciples de le trahir, de le livrer. Donc on voit que nous sommes en danger en fait dans ce monde parce qu'il y a aussi, ce diable qui est actif et qui tourne autour des disciples. Et il y a cette expression dans 1 Pierre 5, où il est question du diable, l'adversaire, le diable, qui rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Et là, on sent bien que le diable, il rôdait autour des disciples. Et il a dévoré qui ? Il a dévoré Judas. Donc, voilà, nous sommes dans le monde, en danger, parce qu'il y a le diable qui est actif, et qui cherche qui il pourra dévorer. Aussi, on est aussi en danger parce qu'il y a notre propre chair. Et on voit dans le chapitre, mais avec l'exemple de Pierre, que notre chair, elle n'est pas fiable. Et on peut tomber à cause de ce que nous sommes, à cause du mal qui est en nous, de notre propre chair. Donc ayant la chair en nous, étant dans un monde corrompu, où Satan agit, rôde pour savoir qui il pourra dévorer, nous avons besoin, tellement besoin, que le Seigneur s'occupe de nous depuis le ciel. Et donc le Seigneur, avec cet amour jusqu'à la fin, et puis aussi ces versets qui nous montrent la gloire, quelle gloire dans cette personne de notre Seigneur. Et on a fait allusion à cette expression, le Père lui avait mis toutes choses entre les mains. On a souligné la fidélité. C'est le seul homme à qui Dieu a pu remettre quelque chose entre les mains, confier une responsabilité et qui était à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. Et il y a aussi peut-être, on l'a dit, dans cette expression, toute chose entre ses mains qui montre les gloires qui suivent son œuvre à la croix et toute l'autorité, toute la domination, tout ce qu'il a reçu en réponse en récompense de son œuvre à la croix. Il a toutes choses entre ses mains. Eh bien, pensons à ses mains, les mains de notre Seigneur, les mains de Jésus, les mains de notre Seigneur, en qui il y a tout, dans lesquelles le Père a tout remis. Eh bien, ce sont ses mains qui vont se mettre à laver les pieds de ses disciples. Ces mêmes mains qui ont tout reçu de la part de Dieu, il va les utiliser pour laver les pieds de ses disciples.
Pour les plus jeunes, je voudrais reprendre juste le texte que nous avons devant nous, ces 3-4 premiers versets, qui sont un peu, il faut le reconnaître, un peu compliqués à lire et à saisir. On a en fait plusieurs fils, si je peux dire comme ça, qui se déroulent parallèlement l'un à l'autre. Et ce qui peut aider, c'est de mettre des parenthèses. Il y a des parties qu'on peut mettre entre parenthèses et que dans une première lecture, on peut sauter. Alors si je lis d'abord, je dirais, « Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, verset 4, se lève du souper et met de côté ses vêtements. » Alors là, c'est un grand saut que j'ai fait. C'est vraiment un espèce de déroulement visuel. Les disciples sont réunis avec le Seigneur, là, pour cette fête de la Pâque. Et On peut rajouter, pour entrer en détail, verset 2, « pendant qu'ils étaient à souper ». Donc, avant la fête de la Pâque, Jésus, pendant qu'ils étaient à souper, se lève. Ça, c'est physiquement ce qui se passe. Et puis alors, on a deux parenthèses qui commencent par « sachant ». « sachant que », verset 1er au milieu, verset 3. Pour prendre une image aussi, vous m'excuserez, une image un petit peu ordinaire, dans les bandes dessinées, on a des bulles parfois qui ne sont pas reliées par des traits, mais par des petits ronds à la personne qui parle, pour dire ça, voilà ce qu'elle pense. Les autres ne savent pas cette chose qui est dans cette bulle, les autres acteurs de la bande dessinée. C'est le lecteur qui le voit. Ben, c'est comme si Jean, là, nous mettait deux bulles que l'Esprit-Saint lui a révélées, le Seigneur sachant ceci, ayant devant lui ces choses-là, ce qui est contenu dans ces deux parenthèses. Et puis, dans ces deux parenthèses, on a l'heure qui est venue pour passer de ce monde au Père. C'est encore un fil. Le chemin du Seigneur, pourquoi est-il venu sur la terre? Quel a été le but de son chemin sur la terre? Quel est le déroulement? Comment ce chemin sur la terre va se terminer? Pour aller où? Et la deuxième parenthèse, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, c'est un peu le même film, mais vu sous un autre angle. Et puis alors, on a une dernière parenthèse, celle qu'on vient d'évoquer courtement, le verset 2. Cette parenthèse en contraste. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Jésus, de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer. Le chemin du Seigneur est un chemin en contraste et face à l'opposition de l'ennemi. Un autre fil conducteur qu'on va retrouver plus loin aussi, quand le Seigneur doit leur dire « Vous êtes nets, mais non pas tous ». Et plus loin, quand il va leur dire « L'un d'entre vous me livrera ». Alors, je ne peux que conseiller aux plus jeunes, devant un passage comme ça, vous le lisez, vous ne comprenez rien. Prenez un papier, un crayon, ou bien l'ordinateur, le traitement de texte. Recopiez. Mettez des parenthèses, soulignez, mettez à la ligne, décalez les phrases, pour essayer de comprendre et voir ces différents fils conducteurs qui sont parallèles, qui chacun nous apporte un regard sur un autre aspect de ce que Dieu, l'Esprit-Saint, veut nous dire dans ce passage-là.
Toute petite précision par rapport à la place que le Seigneur occupe, qu'il va occuper auprès du Père pour nous. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il est dit dans le premier verset, son heure était venue non pas pour retourner de ce monde au Père. Pourquoi il n'y a pas marqué retourner ? Parce que le Seigneur va au Père d'une manière comme un homme. Il est glorifié comme homme. Quand il est venu de Dieu, il est devenu ce qu'il n'était pas. Lui, l'Éternel. Il s'est inscrit dans le temps et on nous a parlé de son heure. L'Éternel s'est inscrit dans le temps. Il est devenu, la parole devint chair. Il est devenu un homme et c'est comme homme qu'il passe au Père. Semble important de considérer que le Seigneur est auprès du Père comme un homme et qui représente des hommes, les hommes que nous sommes. Représentant des croyants qui sont des hommes, c'est un homme qui est dans le ciel, un homme parfait. Deuxième pensée aussi que je voudrais donner sur le verset 2, très solennel. Il y a eu une gradation, ou plutôt une... On pourrait plutôt dire une dégringolade. Dans le chapitre 12 de ce même évangile, il nous est dit que Judas était voleur. Bien sûr, il fait quelque chose, paraît très glorieux, Dieu, c'est très bien, il peut distribuer de l'argent aux pauvres, mais Dieu qui sonde le cœur de cet homme, le Seigneur qui sonde le cœur de cet homme, dit, soucie pas des pauvres. Il était voleur. Là, il y avait une tendance qui l'a nourri. Alors vous me direz, Judas n'est pas un enfant de Dieu. Mais nous pouvons, nous aussi, nourrir des choses qui ne sont pas jugées, sur lesquelles Satan saura faire levier. Seigneur dit de Satan, il n'a rien en moi. Mais là, Judas avait laissé, on peut dire, une tendance que Satan va exploiter. Il était voleur. On a tous nos tendances et nous avons à veiller sur ces tendances, tendance à l'impureté, tendance à toutes sortes de choses. Que, là, c'était le vol, l'amour de l'argent. Et puis ensuite, parce qu'il a laissé une entrée, Satan a pu mettre quelque chose dans son cœur. C'est ce que nous dit le verset. Ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer. Il a mis quelque chose dans son cœur en utilisant une tendance qui était là. L'amour de l'argent. Il s'est dit, Judas s'est dit, avec le Seigneur, on va pouvoir faire de l'argent. Et puis, si nous avions lu plus loin dans le chapitre 13, alors là, c'est Satan lui-même qui entre dans Judas. C'est terriblement solennel. Voyez, où peut conduire une tendance, quelque chose qui n'est pas mis dans la mort. C'est quelque chose qui va travailler. Satan d'abord va placer lui-même quelque chose dans le cœur de Judas, et après il va rentrer lui-même dans le cœur de Judas. C'est solennel pour nous, pour chacun de nous, dans notre vie.
Peut-être encore une autre raison pour laquelle Dieu nous rappelle par sa parole que Judas était ici parmi les disciples. Nous avons bien souligné cette expression « les siens ». Et il y avait un entre eux qui n'était pas le sien. Et il a participé encore à la Pâque, mais plus à la scène, comme nous voyons expressément et explicitement ici dans ce chapitre. Mais Dieu veut nous avertir, il veut nous faire sur nos gardes de n'être pas surpris si peut-être un temps ou un autre, quelqu'un est exposé parmi nous qui n'était pas un Judas, parce que Judas certainement est une personne unique, mais qui est inconverti, qui est incrédule. Ça peut toujours être le cas. Certainement, ce n'est pas notre travail d'être comme des détectives comme cela, mais il est quand même remarquable que les disciples n'ont jamais compris que Judas n'avait pas la vie. Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas proche du Seigneur? Est-ce que c'était parce que l'Esprit Saint n'était pas encore en eux? Nous ne jugeons pas. Mais nous voyons ici que quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie des siens, des disciples, des croyants plutôt, plus tôt ou plus tard, sera exposé. Il est remarquable que seulement Jean nous montre que le Seigneur, dès le début, a su que Judas était un diable. C'est à la fin du chapitre 6 que le Seigneur le dit aux disciples, à Pierre. Et dans les autres évangiles, c'est que en liaison avec la Pâque, ce dernier Pâque, que Jésus montre que Judas était vraiment cette personne incrédule. Et pour nous aussi, il faut être sur nos gardes que c'est possible, parce que notre témoin, notre vie est si faible, n'est-ce pas, que on ne même remarque pas quelquefois qu'il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui est un incrédule. Mais certainement, si c'est le cas aujourd'hui, il y a encore le temps pour se convertir. Aujourd'hui, l'amour du Seigneur, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur, aujourd'hui, il y a encore le temps pour se convertir. Le Seigneur désire que tu l'acceptes comme sauveur, que tu confesses tes péchés. Mais comme avec Judas, il y a un temps où c'est trop tard. Et que le Seigneur donne à celui que c'est, qui est peut-être parmi nous aujourd'hui, que ce n'est pas le cas pour toi, mais que tu confesses tes péchés, que tu vraiment utilises le temps que le Seigneur te donne encore pour repentir.
Je voudrais simplement souligner ce que nous pouvons penser qui est dans le cœur du Seigneur dans cette scène. Nous savons que ce chapitre 13 vient avant le 14, le 15, le 16, que au chapitre 14, le Seigneur va instruire ses disciples pour entrer dans cette communion avec le Père, avec lui-même, avec le Père, avec par l'Esprit de Dieu. Et dans ce chapitre 13 et dans cette scène que nous avons devant nous, nous avons le début, on peut dire, des paroles du Seigneur Jésus. Et je dirais même plus de cette atmosphère que sa présence et ce qu'il y a dans son cœur veut produire dans le cœur des disciples. Ils sont à souper et c'est la surprise. Le Seigneur Jésus se lève du souper et puis il va, nous l'avons lu, plus tard revenir au souper. Il se lève du souper pour laver les pieds des disciples. Ce qui ne correspond pas à la coutume habituelle, n'est-ce pas? Comprenons bien. C'est plutôt avant le repas qu'il faudrait un lavage des pieds. Mais il y a, nous l'avons rappelé déjà ce matin, des pensées dans le cœur du Seigneur. Il sait, sachant, on vient de le dire. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Judas, on vient de le dire. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun de ceux qui sont là. Et pour lui, dans son cœur, il désire que les disciples soient imprégnés de ce qui est dans son propre cœur, de l'amour, du Père. Nous avons souligné déjà ce matin qu'on est dans une scène où extérieurement il y a une pression considérable pour prendre le Seigneur, le mettre à mort. Les disciples ont dû percevoir quelque chose de cela. L'Esprit de Dieu rappelle que le traître est là au milieu d'eux. Mais l'amour du Seigneur est là et désire que cette atmosphère qui est celle de la maison du Père pénètre dans le cœur de ses disciples pour les préparer, on peut dire, à la communion avec les personnes divines dans le chapitre suivant. Il a aimé chacun des siens, il a aimé aussi Judas, c'est pour cela aussi qu'il est mentionné ici. Son amour à lui est un amour qui est souligné ici à l'égard de ses disciples, mais c'est Dieu a tant aimé le monde, aussi les traîtres. L'amour du Seigneur Jésus est quelque chose qui remplit, qui possède son cœur, et elle vient, on peut dire, accomplir un service au milieu du souper pour que les disciples comprennent, n'est-ce pas, jusqu'où va son amour. Il va être, on peut dire, pendant tout le temps de son absence, tout le temps qui peut paraître difficile dans ce monde, il va être celui qui va les aimer. Il est celui qui nous aime aujourd'hui. Il est celui qui nous soutient, qui nous rafraîchit. Certes, il y a des moments où nous sommes entraînés ou tombons même dans un péché, mais combien plus souvent, tout ce qui est, on peut dire, de notre train-train journalier, de nos occupations légitimes, de tout ce qui vient absorber nos pensées et peut-être notre cœur dans nos occupations dans ce monde, même dans les choses les plus légitimes, mais c'est dans ce monde, et rien même de ce qui est légitime ne peut échapper aux souillures de ce monde. Alors le Seigneur vient faire ce service, on peut dire, pour rafraîchir. Et c'est ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Et quelle surprise pour les disciples que de voir le Seigneur se lever, verser l'eau dans le bassin, se mettre à leur laver les pieds. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient, mais peut-être que leur pensée était occupée de ce souper, leur pensée était peut-être occupée de ce moment agréable, on peut dire, dans la chambre haute, avec celui qu'ils aimaient, loin de l'agitation du monde, loin de la haine de ce monde. Mais le Seigneur veut que leur pensée aille plus loin, n'est-ce pas? Non seulement être dans ce moment agréable avec le Seigneur au souper, mais ils désirent préparer leur cœur à la communion avec les personnes divines telles qu'il va leur enseigner dans le chapitre suivant.
On peut voir aussi dans cette scène bien des allusions à des passages de l'Ancien Testament concernant la purification. Il a été fait allusion tout à l'heure à la cuve des reins. Il y a bien d'autres passages où on voit les sacrificateurs notamment se laver les pieds, les mains, le corps en entier, comme il en sera question ici. C'était ce qu'on peut appeler des rituels. Hein. Donc Dieu avait donné des descriptions extrêmement précises sur la manière dont cela devait se passer, hein, avec des gestes précis, etc. Tout était réglé, et ceux qui se lavaient suivaient ainsi à la lettre, de manière rigoureuse, tout ce que Dieu avait prescrit. Les petits prophètes ont à ce sujet un jugement assez sévère, hein, parce qu'ils disent que ce sont devenus des pratiques assez vides, des formes, finalement, à travers lesquelles, eh bien, les gens ne sont pas engagés. Il n'y a pas d'engagement de cœur. Hein, c'est des choses que l'on répète de manière un petit peu mécanique. Ce qui nous amène un peu à ce... Je pense que là, les petits prophètes font un petit peu le lien vers cette scène-là aussi. La grande nouveauté dans cette scène. Ce qu'il y a de profondément nouveau. C'est que ce n'est pas Dieu qui donne, si vous voulez, des prescriptions, c'est que c'est le Seigneur, lui-même, hein, qui se met aux pieds des siens et qui laisse à travers sa personne un exemple tout à fait nouveau. Ça ne passe pas, si vous voulez, par des règles, mais ça passe par une interaction, par une relation avec celui qui, tout en étant aux pieds des siens, est à reconnaître comme le maître et le seigneur. Là, il y a quand même un déplacement qui est énorme et à travers lequel, justement, on peut voir, parler de notions comme d'amour, de désir d'aimer les siens. C'est là que ces expressions-là aussi prennent du sens.
Nous avons déjà entendu quelque chose concernant l'expression « les siens ». Ce sont ceux qui appartiennent à quelqu'un. Et dans le peuple juif de l'époque, cette expression était uniquement employée pour ceux qui étaient vraiment des très proches, ceux qui appartenaient à la famille même. Et ça nous montre déjà quelque chose de cette relation que le Seigneur a avec ses disciples, appartenir à la même famille. Deuxième point, le Seigneur ici se met à genoux, oui, c'est-à-dire il lave les pieds, il fait un service d'esclave. Il est intéressant de voir là aussi que dans le peuple juif, les esclaves pouvaient faire cela, mais ce n'était pas des personnes de la même famille qui en étaient forcées, obligées. Si quelqu'un de la famille devait le faire, il pouvait le faire seulement s'il le voulait lui-même. J'espère que je m'explique bien. On ne pouvait pas demander à quelqu'un de la famille de faire ce service, sauf qu'il était prêt à le faire. Et voilà ce que le Seigneur nous montre. Ces deux côtés, c'était les siens. Et encore maintenant, ce service qu'il fait. Il a dit oui. Oui, pour les miens, je fais ce service, un service d'amour. Et le Seigneur est un modèle, un vrai modèle. Nous avons après encore cette deuxième partie où le Seigneur nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez remarqué, est-ce que vous avez vraiment profondément compris ce que j'ai fait, alors faites de même.
Juste une remarque sur ce qu'il est dit dans le verset 4 à 5. Je crois qu'on trouve cette action, pas que le Seigneur a pris. Il s'est levé, il s'est mis de côté ses vêtements, deuxièmement. Troisièmement, il a pris un linge. Quatrièmement, il s'est saigné. Cinquièmement, il a versé de l'eau dans le bassin. Sixièmement, il a lavé les pieds des disciples. Septièmement, il a les essuyés avec le linge. Il me semble que, et c'est ce que j'aimerais exprimer, les premières remarques nous montrent aussi un peu caché, un peu symboliquement, que le Seigneur, comme il est venu ici sur la terre. Ici, certainement, c'est comme nous avons déjà marqué, qu'il s'est comporté comme un esclave, lui, le Fils de Dieu. Mais il s'est levé. Il y avait un moment où le Seigneur, comme nous avons entendu, qui était toujours Dieu, Fils de Dieu, se levait pour venir ici sur la terre. Comment? Il a mis de côté ses vêtements. Il était Dieu de gloire. Et Philippiens 2 nous montre que cette gloire extérieure de pouvoir, il a mis pour ainsi dire, de côté. Il a resté toujours Dieu, certainement, l'essence. Mais s'il avait venu dans cette gloire extérieurement, c'était personne qui a pu survivre sa présence. Mais comme il est venu comme homme ici sur la terre, il a mis, pour ainsi dire, de côté ses vêtements. Quel abaissement, quelle grandeur dans cette personne. Il a pris un linge. Ça montre qu'il a pris cette forme d'esclave, comme Philippiens 2 nous montre. Vraiment, qu'il est venu comme un servant ici, pour servir. Et pas seulement il est venu comme cela, mais il s'en saignait, ça veut dire, il a vécu comme ce servant toute cette vie. 33 ans ici sur la terre pour servir d'autres. Il n'a jamais vécu quelque chose pour soi-même. C'était toujours pour des autres, pour les siens et aussi pour le monde, pour prêcher la parole, pour montrer la pensée de Dieu, pour révéler Dieu. Vraiment, il est venu ici comme un serviteur. C'est remarquable, comme il me semble, dans ces petites expressions ici, nous voir toute cette gloire du Seigneur qui est Dieu lui-même et qui s'est anéanti lui-même pour venir et vivre ici sur la terre comme cet esclave, comme ce serviteur.
Et le Seigneur, en même temps, accomplit ce service de la même manière que ce qu'on trouve fréquemment chez les prophètes dans l'Ancien Testament, particulièrement Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie. Il joue une scène, c'est vrai, c'est pas vraiment juste dit comme ça, mais il fait l'acte pour montrer quelque chose d'abord. Et après, il expliquera. Il prend cette place du serviteur pour laver les pieds. Il aurait pu leur dire, d'abord, leur expliquer, il faut que vous soyez purifiés, votre marche vous souille. Non. D'abord, il y a cet acte avec tout ce côté de cet abaissement qu'on vient de relever, cette place qu'il prend, choquante pour les disciples. Et plus loin, il leur dira bien, vous m'appelez maître et seigneur. La relation habituelle qu'ils avaient avec lui était complètement inversée, bouleversée. Et c'est par cet acte qu'il veut les rendre attentifs au message, à ce qu'il veut leur dire. C'est quelque chose de précieux. Et en relisant ces passages, quelques jours, j'ai essayé de m'imaginer la scène. On peut l'imaginer de plusieurs manières, je vous en propose deux, pour la suite un petit peu aussi. Le Seigneur accroupi par terre, Pierre qui l'interpelle, le Seigneur qui regarde Pierre pour lui répondre. Donc qui lève la tête pour regarder vers le haut Pierre assis. Ou alors à l'inverse, on peut l'imaginer, le Seigneur qui ne lève même pas la tête, qui continue à laver les pieds tout en lui répondant. Et mettons-nous alors à la place de Pierre. Voilà comment nous voyons le Seigneur. Voilà, il fait. Il prend cette place avec tous les détails, ce qu'on vient d'énumérer. Ôter ses vêtements, prendre ce linge, prendre le bassin, laver, essuyer, tous les détails, tous les gestes qui sont là. Et cela chez chacun des 12, et peut-être d'autres qui étaient avec les 12. Voilà. Le temps, nous lisons ces versets très vite, mais il y a du temps qui s'est passé. C'est peut-être pas par Pierre qu'il a commencé. Et Pierre a peut-être vu ça, alors qu'il faisait aux autres, avec en lui ce côté choqué. Mais comment, le Seigneur fait une chose pareille? Non, tu ne me laveras pas les pieds. Voilà. Pouvons nous arrêter sur ces passages en essayant d'imaginer la scène, avec tout ce que nous venons de lire avant. Sachant que, voilà. L'heure est là, je crois que nous allons arrêter pour ce matin.
122.